Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, j'ai envie de poser la question à Jonathan. Est-ce que le christianisme fait quelque chose de moral en premier? Je t'entends dire que non des fois, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer ça, puis je vais t'amener des histoires après.
Est-ce que le christianisme fait quelque chose de moral en premier? C'est ça que tu...
Ouais.
Ben, moi, je pense pas qu'en premier, c'est moral. C'est-à-dire que, tu sais, le christianisme, dans le fond, sa plus grosse... son plus gros effet, c'est un effet ontologique, c'est-à-dire que ça affecte la structure de l'être ou ça révèle la structure de l'être. Puis, après ça, il y a une question morale qui vient, mais je dirais que même la question morale est comme troisième degré parce que d'un côté, elle révèle la structure de l'être. Deuxièmement, elle nous donne une posture, tu sais, un alignement face à ça. Puis, troisièmement, il y a le côté moral. Parce que même le Christ, il semble suggérer que la moralité, c'est vraiment pas l'essentiel. Tu sais, parce qu'il essaie de réduire la moralité à son principe. Quand il dit « aime Dieu, aime ton prochain », puis il n'y a pas l'idée... En tout cas, quand on comprend la moralité comme une série de tu sais, comme la notion d'éthique, la façon qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est ça que lui, on dirait qu'il essaie de couper à travers ça pour arriver vraiment à l'essentiel. Puis mais après ça, ça a des implications morales, finalement, là, à la fin.
OK. Fait que, parlons-en plus. C'est peut-être une des raisons pourquoi les gens ont tendance à penser que c'est moral en premier, c'est qu'il y a certaines paraboles ou certaines choses que le Christ dit qui semblent être morales en premier. Après ça, il y a des exemples où c'est pas moral en premier, mais faire la balance, disons, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Fait, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être te parler de quelques paraboles ou quelques histoires, puis te demander, tu sais, des fois, tu vas être capable de montrer que c'est carrément pas moral en premier, même cette affaire-là. Puis d'autres fois, tu sais, peut-être avec le contexte, tu vas réussir à montrer la même chose.
Alors, c'est un petit défi.
Ouais, j'ai comme une série de défis pour toi aujourd'hui, Jonathan.
Okay, c'est bon.
Fait que
les gens, quand... je sais pas, j'ai aucune idée ce qu'il va dire, là. Tu sais, c'est vraiment une surprise, là. J'ai aucune idée.
Je te fais confiance, Jonathan.
Ouais, c'est ça.
Fait que... Une des affirmations moi, qui me vient en tête quand on parle de la question de savoir si le christianisme c'est moral en premier, c'est les affirmations quand Jésus dit qu'il y a plus de joie dans les cieux quand un seul pécheur se convertit. En fait, je ne me rappelle pas du comparatif, mais cette idée-là que c'est la plus que quand 99 justes ne pêchent pas, là, c'est quand un pécheur se convertit qu'il y a plus de joie aux cieux.
Moi, j'avoue, je vois aucune application morale, en fait, à cette.
Ah, ouais?
Parce que, tu sais, dans le fond, ce que Dieu cherche, c'est la réconciliation. Tu sais, c'est-à-dire, Dieu cherche la réconciliation de sa création avec lui-même. Et donc, quand quelqu'un revient, tu sais, ben, c'est ça qui donne la joie au paradis. Quand quelqu'un retourne vers Dieu, dans le fond, s'il s'était éloigné, ben c'est comme si c'est un. Tu pourrais dire que c'est une façon dont l'amour grandit.
C'est vrai?
Ouais.
C'est vraiment fascinant parce que on n'a pas la même intuition sur comment interpréter ça de prime abord. Mais mettons, quand je pense à un pécheur qui se convertit, tout de suite, je pense à quelqu'un donc, qui pêche puis ensuite qui arrête de pêcher. Puis certainement, ça inclut globalement de se retourner vers Dieu. Mais peut-être que tu peux expliquer, disons, les trois niveaux dont tu viens de parler. Là. Je pense que je vois où tu veux en venir, mais en même temps,
c'est explicite pour tout le monde. Avant, je vais essayer de voir. Toi, dans le fond, ce que tu suggères, c'est que un pêcheur qui a des gestes qui sont immoraux, ben là, à ce moment-là, s'il se convertit, ben là, il va avoir un effet moral dans le monde parce que il va cesser ou diminuer énormément ses gestes immoraux.
Oui.
C'est ça.
Oui, oui.
Ouais, ça, mais c'est parce que le problème, c'est que pour moi, pécher à la base, c'est pas moral. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, c'est difficile à concevoir comment que les cinq premiers commandements ils incluent ce qu'on conçoit comme la moralité. Tu sais, aime, tu sais, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Après ça, tu sais, de ne pas se faire des fausses idoles, tu sais, de ne pas blasphémer, de respecter le jour du sabbat. Tous ces commandements-là, qui sont les premiers commandements, ils ne sont pas moraux. Les commandements moraux, ils viennent en deuxième plan, c'est-à-dire, tu sais, toutes les... Fait que c'est sûr que moi, la première chose que je pense à quelqu'un qui se convertit, c'est pas... c'est plus au niveau des premiers commandements, là, c'est-à-dire il se réaligne vers Dieu, puis c'est ça la plus grande transformation. Mais c'est vrai que, tu sais, maintenant que là, une fois que tu le dis, tu te dis, ben oui, c'est vrai que ça a quand même des conséquences morales au deuxième degré, parce que en théorie, si tu te réalignes vers Dieu, si tu fais, si tu as une métanoïa, puis tu sais, un retour de l'intelligence, ben tu vas pécher moins, en tout cas, envers les autres. T'sais, tu vas pas, en théorie, tu vas pas faire, t'as pas volé ton frère et tout. En tout cas, si tu continues de faire de ce genre de péché-là, ben, tu sais, tu vas... Puis aussi, il y a beaucoup de péchés qu'on considère des péchés, qui... Tu sais, comme par exemple, des mauvaises pensées... tu sais, Jésus, il met beaucoup l'emphase sur les mauvaises pensées comme étant, on pourrait dire, un peu la racine du péché. Mais ça, c'est vraiment prémoral. En tout cas, de la façon dont on conçoit la moralité aujourd'hui. C'est-à-dire, le Christ, il essaie d'aller à la racine qui est une relation d'être, puis il essaie de résoudre ça. Fait que si toi, tu vois que toi, tu n'as jamais fait rien de mal contre personne, mais tu as des mauvaises pensées, puis là, tu te convertis, puis là, tu tournes vers Dieu. En tout cas, dans le monde, de la façon dont on conçoit la moralité, il n'y a aucune conséquence morale immédiate à ça, là. En tout cas, c'est ce que je pense, hein.
Je pense que ce que je devine aussi, c'est qu'on va peut-être pas dire exactement la même chose par morale. Là,
oui, parce que qu'est-ce que tu dis par la moralité?
Parce que j'aurais tendance à voir ça de façon très large, là, où ouais. En général, la morale, c'est quelque chose qui oriente. Quelque chose qui est moral, c'est quelque chose qui est orienté vers le bien, puis quelque chose qui n'est pas moral, qui n'est pas orienté vers le bien. Pas nécessairement besoin que ça implique des personnes, d'autres personnes humaines, disons. Mm-hmm. Donc, j'aurais plus tendance à penser que même les premiers commandements, si ça implique une bonne conduite, c'est quelque chose de bien, de moral.
C'est relié à la conduite, en général. L'éthique, c'est relié à la façon dont tu agis. Mais tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, quand la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu sais, d'adorer un seul Dieu, c'est pas... Ou même l'idée de dire, quand Jésus dit, tu sais, que si tu as des pensées, que c'est quasiment aussi pire que si tu fais la chose. Tu sais, ça, c'est pas une conduite. Ben, tu sais, à la limite, on pourrait dire que les pensées, c'est une conduite aussi.
L'orientation. Mais on dirait, le fait que t'es pas la même intuition sur qu'est-ce qu'on va dire par morale, ça me fait poser la question, savoir, tu sais, dans la société, qu'est-ce que les gens veulent dire par morale.
Moi, je pense que les gens veulent dire de l'éthique. Ils pensent vraiment au niveau d'éthique, c'est-à-dire... comment qu'on agit entre nous, c'est ça, quel geste, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, c'est ça en général que les gens considèrent comme la morale.
Ouais, je pense que c'est un bon point. Le fond des gens, ça va être simple, c'est comme, est-ce que tu fais mal à quelqu'un ou pas mal à quelqu'un, puis c'est juste ça qui va être le domaine de la morale. Si quelque chose n'a pas d'implication sur la vie des autres directement, ben pour la plupart des gens, c'est même pas une question morale. Comme
oui, mais c'est pour ça que, par exemple, quand tu penses à la question des... on va aller tout de suite dans le dark, là, mais tu sais, les questions des robots sexuels ou les questions d'une pornographie générée par l'intelligence artificielle, tu peux voir comme quoi, pour les gens qui conçoivent la morale comme... ce qu'on fait envers les autres, ça va devenir un problème. Tu sais, même le prof de morale, tu sais, d'éthique, je sais pas trop comment le cours s'appelle maintenant au secondaire, de ma fille, qui est adolescente, lui, il suggérait aux jeunes adolescents, d'ailleurs, qui est hautement inapproprié selon moi, que de la pornographie juvénile générée par le AI, ça pourrait être une solution au problème des pédophiles, tu sais. Parce que là, dans le fond, tu leur donnes un genre de simulation artificielle qui fait pas mal à personne. Comme ça, la personne peut comme participer dans son monde de fantasmes sans faire du mal. T'sais. Mais t'sais, pour un chrétien, selon moi, c'est hautement problématique. Parce que nous, on conçoit pas l'être humain juste comme la façon dont il agit envers les autres. C'est-à-dire qu'on voudrait pas... T'sais, on voit que cette personne-là, en participant à ce pattern-là, à ce genre de comportement-là, même si, en théorie, elle ne fait pas de mal aux autres directement, bien qu'elle est en train de détruire le monde quand même en détruisant son intériorité. Puis que ça ne serait pas une bonne idée de laisser ça à exister dans notre monde.
Oui, c'est vraiment fascinant. Ça me fait me rendre compte que... comme Jonathan Haidt a expliqué ça, c'est pas tout le monde qui a l'émotion morale de dégoût En général, les gens qui sont plus à gauche, ils ont pas cette émotion morale-là du tout. Puis c'est quelque chose de plus à droite d'habitude. Puis ça fait qu'il y a disons, plusieurs puzzles des fois que tu peux comme tu peux poser une question. OK, puis là, Jonathan Haidt, il invente un paquet d'affaires justement qui ont des liens sexuels. Là. Puis les gens qui sont plus à gauche, qui n'ont pas d'émotion morale de dégoût, ils ont bien de la misère à dire pourquoi ce serait pas correct de faire cette affaire-là. Comme, notons par exemple, de générer de la pornographie juvénile, comme tu as dit. Versus pour des gens qui sont plus conservateurs, qui ont une émotion morale de dégoût, qui n'est pas juste utilisée pour des pathogènes physiques qui peuvent te rendre malade, mais aussi comme des idées qui peuvent rendre une civilisation malade, disons, ils vont sentir tout de suite que c'est immoral de faire le genre de choses dont tu viens de parler. Puis, tu sais, Jonathan, il te demande d'imaginer des choses vraiment plus bizarres, là, genre des gens qui ont des... mettons, quelqu'un qui... un exemple classique qu'il donne, ben, ça va être une graphique pour les gens. Là, les enfants, j'écouterai pas ça, mais ça donne... Comme ça illustre le genre de choses qui fait penser aux gens puis comment il y a un gros schisme entre les populations sur la dégoût et la moralité. Mais il demande aux gens, par exemple, d'imaginer... un homme qui a une relation sexuelle avec une carcasse de poulet qu'il a acheté à l'épicerie. Ensuite, il lave parfaitement le poulet. Là, il n'y a comme plus aucun risque de quoi que ce soit. Puis, il fait cuire le poulet puis il mange après pour souper. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont une émotion morale de dégoût comme fort ça. Puis, tu sais, il n'a pas fait de mal à personne. Puis, tu peux même dire que okay, c'est aseptisé à 100%. Il n'y a aucun risque à la santé que tu peux imaginer. Mais, tu sais, beaucoup de gens qui ont une émotion morale à dégoût ont quand même capable de dire que c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Mmh. Puis, beaucoup de gens qui sont plus à gauche puis pour qui l'émotion morale de dégoût ne joue pas une émotion un rôle fort dans leur corps de morale, sont comme pas capables d'expliquer pourquoi ce genre de puzzle-là, c'est pas bon.
Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, là, on est en dehors du sujet, mais, tu sais, par exemple... Je pense que le Christ comprend bien que les pensées puis les gestes qu'on fait en privé, en fait, ils ont un effet sur la société. Des fois, ça peut être des effets qui sont à long terme ou ça peut même être des effets qui sont sur plusieurs générations, mais c'est pas vrai que ça n'a pas de fruit, tu sais. Par exemple, cet homme-là, c'est important de comprendre, quand on comprend de la façon analogique puis l'idée que quand on fait des choses, ça fait partie d'une structure, c'est que c'est pas des gestes isolés. Ben cette personne-là qui participe dans ce genre de gestes-là, ça signale d'autres genres maladies de comportement que cette personne-là pourra pas empêcher pour toujours. C'est-à-dire, c'est impossible que quelqu'un qui fait quelque chose comme ça pourrait rester juste dans ce genre d'action-là à long terme. T'sais, c'est-à-dire, c'est quasiment impossible que si, en plus, il le fait souvent, puis ça devient comme un genre d'habitude, que ça va, à un moment donné, ça va commencer à découler sur d'autres comportements, puis ça va le mener vers des gestes qui sont beaucoup plus dangereux. Puis c'est la même chose avec la question, disons, de pornographie juvénile qui serait générée par l'intelligence artificielle. Si on conçoit quelqu'un qui se laisse aller dans ce genre de choses-là, on a comme l'intuition que, en fait, ça va avoir des répercussions sur la société à long terme, puis que c'est mieux, vaut mieux éviter des choses, même en privé, certains comportements, même en privé, pour pas que ça l'arrive.
Ouais, je pense que le symbolisme de dégoût est vraiment bien, je pense, pour comprendre ça, parce que c'est comme des gens qui sont capables de sentir que telle idée, si elle commence à s'installer, elle va infecter, même si tu t'en rends pas trop compte. Tu manges un pathogène sur le coup, peut-être que tu sens rien, mais après ça, peut-être que dans 2 semaines, tu es malade puis tu meurs. Ben, tu peux être capable de sentir au niveau plus abstrait des idées que si tu laisses certains trucs rentrer, même s'ils n'ont pas d'impact immédiat au moyen terme, ça finit par infecter. Ça. D'accord, ensuite.
Ouais, ça, c'est sûr que, mais c'est difficile de penser à ce genre de choses-là dans le contexte de la façon dont on conçoit l'éthique puis la loi aujourd'hui. Tu sais, parce que des comportements comme ça, en théorie, c'est pas bien géré par la loi. Tu sais, c'est mieux géré par une sorte de, comment je pourrais dire, des réactions beaucoup plus immédiates, là. Tu sais, c'est-à-dire le rejet social, l'isolation, tu sais, c'est le genre de choses qui en théorie, si tu rencontrerais des gens qui avaient participé à ce genre de comportement-là, puis les gens commenceraient à le savoir, ben ils seraient marginalisés, étaient isolés, ils seraient comme coupés de la société, là, parce que c'est un peu dur de, c'est difficile de, ça, c'est difficile de mettre des lois sur des comportements comme ça. Là. Mais je sais qu'il doit avoir des lois comme ça avant. Il doit avoir une genre de, il doit avoir, j'ai jamais lu, tu sais, les genres de lois de sodomie qu'il y avait, qui existaient, tu sais, disons au Moyen Âge, mais ça devait être assez vague. C'est ça devait être genre tout comportement qui est juste pas comme normal. Tout ça, c'est illégal. Si on vous pogne, c'est comme out.
Ouais, ouais. Mais pour revenir aux, disons, définitions différentes de morale, ça m'aide un peu à comprendre aussi pourquoi on n'a peut-être pas les mêmes intuitions. Moi, je suis super consciencieux, juste de par personnalité, là. Fait que j'ai tendance à voir des choses avec des émotions morales qui n'élicitent pas d'émotions morales pour beaucoup de gens, là. Mettons même, je sais pas quand, donc j'ai fait un bac en maths, puis là, des fois, mettons, l'idée de, je sais pas, une mauvaise preuve, il y a des choses que je sentais presque de façon morale, que, OK, ça, c'est pas bien. Genre, ça, c'est pas bien ordonné, c'est pas beau, là, c'est pas bon. Là. Je peux avoir des émotions morales par rapport à
Ah
des
oui.
choses comme ça. Fait que, tu sais, mettons, comme une mauvaise structure, là, je sens ça quasiment comme quelque chose de immoral. Mais je comprends qu'à l'inverse, c'est beaucoup de jeunes dans la population qui sont plus à gauche, ça va vraiment se limiter plus à des émotions morales que tu associes plus à l'injustice. Soit les gens sont plus à gauche, ça va être ça, là, sont plus
Ouais.
sensibles à l'injustice. Fait que c'est bon, ben, ça aide à comprendre. Là. On vient de où, là, puis pourquoi il y a une genre de hiérarchie de ce qu'on veut dire par morale.
T'as-tu
Après ça, peut-être.
une autre histoire que tu voulais raconter ou là j'étais comme cassé les jambes avec ce que j'ai dit? Je sais
Non,
pas,
non, non.
mais c'est pas ce que je pense.
Mais je pense qu'on peut penser à d'autres histoires, mais on dirait que ça me fait réfléchir à d'autres genres d'implications de ça. Je vais devoir y réfléchir plus. Peut-être que je vais allumer des trucs dans l'émission, mais
Ouais.
sinon, on peut continuer à penser à travers des histoires. Disons, le retour du fils prodigue, toi, t'expliquerais ça comment? Parce que c'est une histoire qui a l'air très morale, là, où, de prime abord, le fils décide de prendre des choses pour lui. Puis ensuite, le fait qu'il commence juste à revenir après avoir touché le fond du baril, son père comme l'accepte tout de suite. Il y a vraiment comme un accent sur la miséricorde outre mesure de Dieu là-dedans. Donc ça, de prime abord, c'est une histoire qui semble morale.
Oui, ça, mais c'est peut-être, c'est vrai. Je pense que je vois de plus en plus comment que, en fait, notre version de la moralité, tu sais, c'est quoi ce qu'on veut dire par morale? C'est pas la même chose. Parce que moi, je trouve que, en fait, cette histoire-là, on dirait que Jésus fait exprès pour éviter la question qui serait à la base morale. C'est-à-dire, le jeune homme, il vole pas son père. Il pourrait voler. Tu sais, l'histoire, ça pourrait être qu'il a volé son père puis que le père le pardonne, mais non, c'est pas ça. Le jeune homme demande à son père ce qui lui est dû. Il dit, donne-moi ce qui m'est dû, en fait. Puis le père accepte de le faire. Il aurait pu refuser le père, mais le père, il accepte de lui donner. Il lui donne ce qui est dû. Puis là, après ça, le jeune homme, il part. Puis ce qu'on comprend, c'est que les choses qu'il fait, c'est contre lui, tu sais. C'est-à-dire qu'il dégrade sa propre vie dans son comportement. C'est sûr qu'on pourrait trouver qu'il y avait des comportements immoraux. Peut-être que il participait à. Peut-être qu'il engageait les prostituées ou je ne sais pas. Mais ça se pourrait aussi que non, ça se pourrait qu'il a juste dépensé son argent, il a fait de la fête, il a fait tout ça, mais finalement, quand même, il agit contre lui-même au point où il devient tellement dégradé qu'il a tout perdu, même sa propre dignité. Puis là, finalement. C'est là qu'il se rappelle de son père, puis qu'il retourne. Puis, ça, la seule chose qu'on pourrait penser, qui est en fait une question morale, c'est qu'il y a une injustice dans. Tu sais, si, au niveau moral, là, comme on pense moralité aujourd'hui, il y a comme une injustice, en fait, dans l'histoire. Puis l'injustice, c'est plus quand il revient. Parce que le fils, dans le fond, le père lui redonne. Imagine là, le fils qui est resté là, puis qui n'a pas reçu son héritage. Là, il dit, OK, quoi, on le reprend. Il revient dans la maison, puis là, il va manger, puis là, il va vivre ici, puis il va profiter encore des richesses de mon père, même si il a pris la moitié, il est parti avec. Puis là, il revient. T'sais. On dirait que c'est comme au niveau juste simplement moral. C'est le retour du fils prodigue qui pose un problème moral parce que. Le fils qui est resté en théorie légalement, puis t'sais, au niveau de la justice totale, on pourrait penser que c'est lui qui a le droit à ce que le père, ce qui reste au père. Puis finalement, ben là, le père, il pardonne le fils. Ben même pas, il pardonne pas, il fait juste le reprendre, tout simplement. T'sais, il le ramène
Il laisse même pas le temps de s'excuser.
Non, c'est ça. Puis fait qu'à la limite, il y a une implication morale. Mais l'implication morale, c'est assez intéressant qu'elle est comme court-circuitée, en fait. C'est comme si le père, comme j'ai dit dans le premier exemple, le père, il préfère la réunification d'amour, t'sais, une sorte de retour à la vraie réalité ontologique de la relation du père et du fils, plutôt que la question morale. La question morale est quasiment dans les jambes dans cette histoire-là. Elle est quasiment un peu dans. C'est comme si c'est une distraction, là.
Ouais, c'est vraiment intéressant. On voit comme les deux niveaux de morale, clairement, parce que, tu sais, je suis d'accord avec le fait que, tu sais, on dirait au plus bas niveau de comment tu traites des gens, égal ou non, on dirait qu'il y a eu, en fait, une injustice dans l'histoire, là. Comme tu dis, c'est comme d'impact, parce que le frère aîné, qui lui a pas désobéi, a moins de choses au final. C'est comme s'il fait donner moins de choses par son père, que le frère plus jeune. Mais j'ai tendance à voir, quelque chose de moral aussi dans le fait que le jeune frère décide de partir contre comme l'ordre qui devrait suivre dans sa famille, là, même s'il désobéit pas, disons, à une loi en prenant son héritage puis en partant. À cause de ça, j'avais tendance à voir, OK, ben c'est comme ce côté-là, cet étage-là moral de l'histoire qui est important, puis ce qui se passe au niveau plus bas, comme du grand frère, c'est pas grave. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire là.
Je vois exactement le contraire de toi dans ce sens-là. Comme moi, je vois que la question morale, elle se pose plutôt à la fin, tu sais. Quand il revient, c'est là qu'il y a comme une question morale, mais elle est même mise à côté, là.
Ouais, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être on dirait au niveau philosophique, là, je prends une dérogation de l'histoire, mais c'est comme. On dirait au niveau de la définition de qu'est-ce qu'on veut dire par morale, c'est que moi j'ai comme une définition facile là, au niveau philosophique parce que quelque chose est moral s'il est orienté vers le bien. C'est le bien, c'est Dieu, comme t'sais, toutes les bonnes structures comme participent à la moralité, là, pas juste des moments où je traite mon voisin de telle façon ou pas de telle façon, là. Fait que c'est de. T'sais, toi, j'imagine, tu peux pas dire ça si simplement, là, que dès que quelque chose va vers le bien, c'est quelque chose de moral. Il y a la morale, comme tu captes ça au niveau de comment les humains interagissent entre eux.
Oui, ben oui, parce que moi, oui, moi, j'ai tendance à voir la morale s'appliquer aux relations les relations entre les êtres humains. Mais tu sais, peut-être que j'ai pas raison. Il faudrait voir, c'est quoi la définition du mot morale ou moralité et tout ça. Mais je pense que c'est parce qu'aussi, j'ai tendance à faire égal entre la moralité puis l'éthique. Parce que c'est notre monde aujourd'hui, c'est un monde qui est basé sur l'idée d'éthique.
Ouais. On a peut-être, tu sais, on a aussi des tempéraments différents, je pense, là. T'es plus artistique, fait que tu dois être beaucoup plus ouvert. Puis toi, t'es moins sensible au dégoût que je le suis.
Ouais, ça, c'est probablement que oui, là. Moi, je suis probablement plus à gauche, naturellement. C'est pour moi, ça. Même d'ailleurs, tu sais, comme j'ai vécu dans des situations, je me suis retrouvé dans des situations, tu sais, où vraiment j'ai remarqué que les autres personnes avaient vraiment des. Comme moi, je pouvais marcher dans les. Par exemple, quand j'habitais en Afrique, des fois, on allait dans les bidonvilles, vraiment, tu sais. Puis moi, j'avais quand même une assez haute tolérance. T'sais, pour la situation, pour les odeurs, t'sais, pour les choses que tu vois des fois. T'sais, c'est pas que je trouvais pas ça difficile dans le sens que t'sais, ça vient de chercher, mais le sentiment de dégoût, j'ai vu d'autres personnes t'sais, qui voulaient pas nécessairement le sentir, tu fais pas exprès, c'est juste que t'es pas capable de t'empêcher. T'sais, quand, là, j'ai vu t'sais, des gens qui sont vraiment totalement dépassés par l'odeur ou par la vue de quelqu'un t'sais, qui a comme une plaie ou t'sais, ce genre de réaction-là. Là. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment. T'sais, même c'est drôle parce que même quand mes enfants ils se blessent chez nous, s'il y a du sang, là, t'sais, il faut que c'est pas faut que c'est papa qui s'en occupe parce que t'sais, Martine elle est une super bonne mère, mon épouse, mais s'il y a du sang, là, pis t'sais, là, ça va pas, t'sais, c'est vraiment là. Il y a quelque chose d'ouvert, là. C'est comme à flip. Mais moi, on dirait que ça ne m'affecte pas. On dirait que j'ai pas. Je sais pas pourquoi.
Puis au niveau moral, est-ce que tu sens comme un genre de dégoût par rapport à certaines situations ou pas tant que ça?
Non, c'est ça. Pas tant. Non, pas vraiment. T'sais, j'ai pas. Ouais, ça aussi, peut-être aussi à cause que j'ai été en art et tout, t'sais, les gens sont. Je peux
C'est vrai.
sentir des fois, t'sais, je sens l'injustice, ça, je le sens. Une genre de frustration à l'injustice. Je sens. Je peux quand même me rendre compte quand quelqu'un essaye de faire des gestes pour. Comment je pourrais dire? Pour allumer le sentiment dégoût, là, dans le sens que, t'sais, il y a des gens qui font exprès, là, pour provoquer. Dans les autres, le dégoût, tu sais, ça par leur apparence ou par leur geste ou tout. Je suis capable de le remarquer, puis ça m'énerve. Tu sais, ça me fâche parce que je vois que c'est comme une manipulation, il y a quelque chose il y a un jeu de pouvoir, tout ça, mais je le sens pas comme. Tu sais, j'ai déjà eu le sentiment de dégoût dans ma vie, là, tu sais.
Mais tu sens que c'est moins fort que d'autres émotions morales.
Tu sais, si j'ouvre le frigo, puis je réalise pas qu'un truc est totalement moisi, puis je l'ouvre, tu sais, ça va me... C'est sûr que ça va me prendre, là, mais ça en prend beaucoup, peut-être, ouais.
Ah, c'est bon, c'est intéressant. Cool, ben, je penserais à un autre épisode des Évangiles où Jésus dit qu'il va séparer les boucs et les brebis, puis qu'on va se séparer sur la base du bien qu'on a fait aux autres. Là, ça semble être très direct. Là, ouais. Comme ce qui détermine à la fin où on va, c'est comment on a traité d'autres humains.
Oui, ça, j'avoue que c'est le plus moral des exemples, selon moi, que tu as donné. Là. Où là, il y a vraiment l'idée que, dans le fond, le Christ, il va comme un peu refléter la compassion que nous, on a eue envers les autres. C'est-à-dire que la capacité qu'on a d'avoir la compassion puis d'aimer les plus petits, puis de s'occuper des plus petits et tout, que là, ça, c'est comme refléter dans lui son jugement envers nous. Je pense qu'en général, dans l'histoire du jugement dernier, il y a vraiment un côté moral beaucoup plus fort que... Parce que, tu sais, si tu penses à la différence entre l'image du jugement dernier, vraiment le jugement dernier, puis l'histoire du fils prodigue, c'est un peu le contraire, tu sais. Parce que là, ouais, c'est comme si le Christ, il est comme non. Je sais, il dit pas.
Mais il est trop tard.
Il dit trop tard, là. Trop tard, tu sais. Fait que là, il y a comme un côté un peu plus, selon moi, qui est plus moral. Puis, tu sais, dans l'histoire, dans la définition de la Jérusalem céleste, il y a le côté, il y a les deux. Il y a le jugement dernier qui est lié au brebis puis au bouc, un peu qu'on voit plutôt dans les évangiles. Mais quand ça décrit la Jérusalem céleste, il faut se rappeler que ça dit en dehors sont les menteurs et tout. Ils donnent des définitions morales. Mais il y en a un, il dit les chiens. Puis c'est bizarre parce que, tu sais, on ne sait pas si c'est... Tu sais, nous, on pense des chiens, mais c'est une allusion sexuelle.
Les barbares.
Non, c'est une allusion sexuelle. C'est une allusion à les, des gens de prostituées, des hommes prostitués, là. Huh. Oui. C'était comme un insulte que les gens utilisaient pour... Mais tu sais, ça veut aussi dire les chiens, là. C'est aussi pour comprendre l'idée de ce qui n'est pas humain ou ce qui n'est pas. Mais il y a aussi une allusion à la perversion, dans le fond.
Ouais, ouais. Je pensais que là où tu allais en venir aussi avec ça, c'est que, tu oui, mettons, ce passage-là, c'est explicitement moral, mais c'est aussi parce que ailleurs, c'est comme cadré par quelque chose qui est plus métaphysique.
C'est ça. C'est-à-dire que, on dirait peut-être dans la Jérusalem céleste, ce qui est intéressant, c'est que tu vois deux images. Tu vois l'image de à quoi ressemble une société qui est comme connectée au niveau ontologique par l'amour puis par l'adoration. Fait que tu as toute l'idée de la hiérarchie avec le jardin puis la ville puis les rois qui viennent apporter leur couronne. Tu as comme une super belle image de la procession du monde. Puis là, après ça, tu as une description de ce qui est comme éjecté de la société. Puis là, ben c'est ça. Là, c'est là, on dirait, quand tu lis, c'est plus lié à la loi, là, puis c'est plus comme les gens qui sont immorales.
Puis sur l'idée de faire le bien aussi, il y a des passages des évangiles où c'est cadré comme secondaire à la liturgie. Même si on revient au commandement que tu avais mentionné plus tôt, les premiers commandements, c'est plus sur comment s'aligner par rapport à Dieu, puis ensuite, le dernier commandement, c'est par rapport aux autres. Mais tu as cette idée-là aussi dans des passages des évangiles qui ont l'air moral que, OK, en fait, tu commences par, disons, arroser les pieds de Jésus avec des choses qui coûtent cher, puis après ça, tu peux donner de l'argent aux pauvres. Fait que tu as quand même l'idée que, OK, la liturgie en premier, puis ensuite, l'orientation par rapport aux autres. Fait que, disons, des structures, mettons, métaphysiques, ontologiques, bien, puis ensuite, les relations aux autres, morales. Donc, on peut juger sur les conséquences morales, mais reste que disons, la graine qui est jugée à travers les fruits, c'est comme on était orienté au niveau métaphysique.
Oui, moi, je pense que c'est sûr que l'histoire de l'avant des pieds, c'est vraiment ça exactement qui est montré, là. C'est-à-dire que la moralité, elle dépend de l'orientation. Elle commence en deuxième degré, tu sais. Il y en a des gens qui vont pointer au texte dans Isaïe où Dieu dit, tu sais, je ne désire pas le sacrifice, en essayant de montrer qu'en fait, c'est le contraire, tu sais, que dans le fond, l'aspect liturgique est dépendant de la moralité. Mais si tu lis la description, c'est pas la moralité comme telle, c'est la, comment je peux dire, c'est la, c'est la direction, c'est la façon dont on est aligné. Donc, c'est pas les gestes. Là, dans ce cas-là, ce qu'il essaie de montrer, c'est que les gestes extérieurs dépendent de l'intérieur. C'est-à-dire, un cœur meurtri, un cœur qui aime Dieu, c'est ça le plus important. Puis après ça, ben là, il y a les sacrifices, il y a la liturgie. Puis je pense que dans cette façon-là, on peut comprendre la liturgie et la moralité comme l'extériorité. Puis la prière et l'orientation de la contrition, tout ça comme étant la racine de...
Mm-hmm.
Ouais.
Ah, c'est bien. Donc, ça conclut le segment où j'avais comme des histoires spécifiques dont je voulais te parler. Je finirai plus avec deux questions. Une, c'est... on a parlé de beaucoup analyser différentes histoires puis de nos différentes façons de parler de morale. C'est cette vision-là que la religion, c'est en premier lieu quelque chose de morale, puis ensuite peut avoir des conséquences métaphysiques. Ça reste quelque chose d'assez répandu, puis je serais curieux de savoir, selon toi, comment ça finit par devenir aussi répandu, même si c'est faux.
Oui, mais je pense que c'est parce que, on pourrait dire que dans l'esprit des Lumières, là, il y a plusieurs philosophes qui voulaient ultimement arriver à une sorte de une justification éthique du monde, là, c'est-à-dire d'arriver à une moralité, une façon d'exister ensemble. Puis dans la vision matérialiste, ou dans le développement d'un genre de scientisme, puis d'une vision qu'en fait la réalité, elle est dans les causes mécaniques. Mais là, à un moment donné, on arrive à carrément inverser le monde, là, où on dit que les réalités métaphysiques puis les réalités religieuses, c'est des sortes de projections du monde mécanique, là, c'est-à-dire on a comme un monde mécanique qui est vraiment réel, puis là, l'être humain, pour réussir à fonctionner dans ces causes-là, bien là, il s'invente ou il projette une sorte de structure métaphysique par-dessus ou une structure religieuse par-dessus. Mais c'est ça, comment je pourrais dire, ça, ultimement, ça l'a pas donné, là. Ça l'a fait le contraire. À un moment donné, bien, c'est comme l'idée de la société séculière, c'est une fleur coupée, là, que à la longue, ça l'a donné le contraire. Là. Ça fait que le côté moral et éthique s'est mis à dégénérer. Puis, je veux dire, la corruption, comment je pourrais dire, les gens, ils aiment bien penser à l'Église médiévale comme une société, un genre de structure corrompue, puis toute la corruption qu'il y avait dans l'Église. Puis oui, certainement qu'il y avait de la corruption dans l'Église médiévale, mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec la corruption qui existe en ce moment. Tu sais, je dis, les niveaux de corruption qui existent en ce moment, c'est beaucoup plus... c'est comme partout, tu sais. Les Québécois, on devrait s'en rendre compte, parce que nous, on a eu notre petite commission... sur la corruption dans la construction, mais ça, c'est rien, hein? C'est juste le petit bout du iceberg qu'on a vu. Puis en plus, ça n'a rien donné parce que ça continue. Il n'y a rien qui a changé au Québec depuis. Là, il y a autant de corruption. N'importe qui, là, on devient très québécois, là, mais n'importe qui prend la 15 pour puis la 40 pour aller à Montréal, c'est très bien que la corruption au Québec, elle est on en a jusqu'au menton, là.
Un argument que j'avais entendu de Charles Taylor sur le côté moral de la religion aussi, pourquoi ça avait eu, disons, autant de grippe, là, il y a le côté intellectuel que tu as mentionné, là, mais j'entendais aussi que sur le terrain, il y a eu plusieurs vagues où des figures religieuses arrivaient. C'est arrivé dans différentes églises. Il y avait des mouvements catholiques comme ça, des mouvements protestants comme ça. En Orient, je t'avoue, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sais qu'en Occident, il y a eu souvent des mouvements où, dans la culture, il y avait parfois de la déchéance, où là, une figure religieuse, catholique, protestante, peu importe, arrivait, puis venait comme mettre de l'ordre dans tout ça, avec une vision très morale de la religion. Puis ça aidait vraiment plein de gens. Puis là, ça pouvait vraiment comme se répandre très rapidement. Puis le fait que fait que c'était pas juste, disons, qu'on a essayé de... Il y avait des problèmes métaphysiques à cause des Lumières, puis on a dû reformuler la religion de façon plus morale. On dirait aussi que ça avait quand même beaucoup de grippe sur des problèmes que les gens avaient pour vrai, puis ça les aidait pour vrai. Des fois, plus vite qu'une vision plus complexe de la religion où tu commences par parler de beaucoup de choses qui sont pas morales avant de parler de la morale. Tu sais, des fois, juste un sermon qui dit d'arrêter de boire puis de traiter ta femme mieux, puis des choses comme ça, que tu essaies pendant 2 semaines, puis si ta vie va mieux, ça a quand même un impact réel qui fait que cette vision-là de la religion peut se répandre aussi.
Oui, mais c'est aussi parce que faut bien comprendre la hiérarchie, tu sais, des choses. Hein. C'est-à-dire que tu sais, dans un sermon de village, en général, tu vas faire un sermon qui est moral. Pas toujours, mais disons, en général, c'est mieux de faire un sermon qui est moral dans une église de village. Mais tu sais, tu espères que le prêtre, puis son évêque, puis tu sais, la communauté monastique qui est tout près, qu'eux, ils sont capables d'enraciner ça dans vraiment la réelle structure métaphysique. Mais tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, c'est un peu horrible ce que je dis, là, ça semble... Je veux pas... Mais c'est un peu comme quand tu parles à des enfants, tu sais, je veux dire, ton enfant, tu lui... Quand il est jeune, tu lui dis juste de pas faire les choses. Tu sais, quand je vois des parents là, qui essaient d'expliquer à leur enfant de 2 ans pourquoi qu'ils devraient pas frapper leur ami, là, tu sais, à un moment donné, c'est ça marche pas, là. Tu sais, il y a un petit côté de dire non, tu fais pas ça, puis c'est tout, tu sais, puis tu vas comprendre quand tu vas être plus vieux. C'est pour de vrai, là. Je pense que, fait que, dans le fond, c'est quand même normal que la plus grosse quantité de textes chrétiens puis de théologie chrétienne vont être appliqués à des choses très particulières. C'est comme la même chose, c'est-à-dire, le grain de la loi, c'est juste un verset dans Deutéronome, où Moïse, il nous dit que Dieu veut qu'on aime Dieu et son prochain. Je veux dire, il y a 2 livres au complet, Lévitique et Deutéronome, que c'est tous des trucs de ce que tu n'as pas le droit de mélanger. Puis de, mm-hmm. Fait que c'est normal que les choses qui sont plus basses, plus proches, ils sont plus appliqués. T'sais. Puis c'est pour ça que je pense que c'est normal d'avoir plus de morale. Sauf que si tu fais le cours, tu sais, comme nous, on l'a vu au Québec, il y avait des cours de religion, je ne sais pas si tu viens, mais toi, t'es trop jeune. Mais quand t'es jeune, il y avait
des cours. J'en ai eu un tout petit peu. Jusqu'en deuxième année, je pense, okay. J'avais des cours vraiment de religion.
Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait aussi les cours de morale, tu sais. Puis là, la morale, c'est comme, dans le fond, puis là, le cours de religion, une fois qu'ils l'ont enlevé, ben là, c'est devenu comme un genre de cours de morale, tu sais, un cours de morale et d'éthique. Puis là, en ce moment, je pense que c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Mais une fois que tu fais ça, c'est fini, là. Tu sais, une fois que tu fais ça, tu te retrouves avec ton prof de morale au secondaire, d'éthique, et je sais pas comment ça s'appelle, qui dit à ta fille de 15 ans qu'il devrait avoir de la pornographie juvénile AI. C'est ça. C'est ça, la fin de ça. Je le vois en temps réel. Ouais. Ils comprennent pas. Il n'y a pas de façon de comprendre comment ces choses-là sont connectées, puis on n'arrive pas à saisir la structure ontologique du monde. Et donc, on dit, mais là, il ne fait pas de mal à personne, d'abord. Ça devrait être correct.
Oui, oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon. Ça close cette question-là. J'aurais une dernière question. Là, je me demande comment ça va aller, vu que maintenant, on n'a plus exactement les mêmes définitions de morale. En fait, on risque juste d'être d'accord, mais je vais te parler d'un schéma qui mettait la moralité plus avant pour comprendre la finalité de la création. Mais là, je pense, au final, si on fait juste parler de bien, on va s'entendre. C'est juste avec le mot morale, si j'utilise trop, que là, on soit pas d'accord. Mais une explication de la création que j'ai entendu des amis de Thomas dire, puis que je trouve quand même bien, c'est la façon dont Dieu a créé le monde permettait de montrer le plus d'amour possible. Puis là, il explique comme avec une gradation d'amour, là, où c'est de juste comme réciproquer quand tu dois faire du bien à quelqu'un, c'est juste de la justice, là. C'est bien, là. C'est juste de réciproquer quand ta femme s'occupe bien de toi, réciproquer avec, je sais pas, tu dois quelque chose à quelqu'un, tu redonnes, ce genre de choses-là, c'est comme le niveau de justice que tu es comme un peu de base. Si tu fais pas ça, tu
fais du mal.
C'est ça. Puis ça, c'est comme le premier niveau de justice, puis c'est déjà bien. Mais un deuxième niveau d'amour qui est plus élevé, là, c'est de faire du bien à des gens qui le mérite pas. Mettons, si ton voisin n'a rien fait pour que tu ailles l'aider, mettons, mais tu vas quand même l'aider si tu montres de l'amour à ton voisin. Puis Dieu, en créant un monde qui n'a pas besoin d'être créé, un monde qui ne mérite pas d'être créé, ben, il montre cet amour-là. Donc, c'est déjà de la gloire que Dieu a en faisant ce niveau d'amour-là. Mais encore plus haut que d'aimer des créatures qui ne méritent pas d'être aimées, ce serait d'aimer des créatures qui sont en démérite. Donc, des créatures qui sont libres de se rebeller contre toi, puis de continuer à les aimer, puis qui puissent même ensuite revenir librement vers toi, comme on parlait plus tôt du pêcheur qui se convertit, qui retourne. Ça permet de montrer un amour miséricordieux qui est comme le plus haut des amours, donc qui permet de montrer la plus grande gloire possible. Donc, le fait qu'il y ait eu des créatures libres de pécher, de s'éloigner, puis ensuite qui peuvent librement revenir. Parce que Dieu conçoit des aimés même dans le démérite, c'est comme l'amour le plus grand qu'on peut imaginer, fait que c'est la plus grande gloire possible. Mais ça, je trouvais que c'était une façon de mettre la morale en premier. Sauf que là, je pense que toi, tu n'appellerais pas ça morale nécessairement. Tu appellerais ça juste comme bien ou ontologique, en fait, cette vision-là de la création.
Je pense que oui. Mais tu sais, même d'ailleurs, quand tu le décris, c'est comme si tu le décris en fonction d'amour, tu sais. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment une question, je pense, on arrive à juste une question de définition, là. Mais tu sais, je pense que c'est une belle image, là, de comprendre ça, surtout de comprendre comment que Dieu aime les gens, même qui se tournent contre lui, qui sont contre lui, là. C'est la façon dont Dieu est au-delà de la justice. Même si Dieu peut, comme, disons, donner la justice à certains moments, là, quand c'est avantageux pour la... ou quand c'est nécessaire, on pourrait dire, pas avantageux, quand c'est nécessaire, qu'en fait, la miséricorde, c'est le plus haut. Tu sais, c'est plus haut, d'une certaine façon, parce que, comme tu dis, il y a comme une sorte de... Il y a un appel à l'infini, là.
Puis ça, moi, ça m'aide à comprendre des aspects des Écritures, justement, où on dirait que la miséricorde est irrationnelle, presque, là, où Dieu accepte...
C'est irrationnel, de la miséricorde. Ouais. c'est vraiment irrationnel dans le sens que c'est comme un refus de calculer, tu sais. C'est comme si ça a rapport avec le sabbat, ça a rapport avec l'idée que c'est comme à l'extérieur du travail, tu sais. C'est comme, tu fais certaines choses, puis là, ces choses-là, ben ils ont des fruits, tu sais. Tu fais, c'est pas compliqué, tu fais ça, puis là, les fruits, c'est ça. Puis il y a comme un calcul, tu peux le faire, tu veux dire, si je fais tant d'affaires, il y aura tant de résultats. Puis la miséricorde, ce qu'elle dit, c'est, je laisse aller. Tu sais, je calcule pas les fruits, dans le fond, je calcule pas les... Selon moi, c'est clair que c'est comme irrationnel de la bonne façon, là, tu sais, une sorte d'irrationalité qui transcende les catégories, là.
Ouais, ouais. Puis après ça, c'est sûr que ça a un impact moral dans le sens où même toi, t'es d'accord pour le dire, là, où, tu sais, une fois que tu vois cette miséricorde-là que Dieu a envers nous, ben, tu sais, tu veux traiter les autres personnes aussi mieux, là, comme ça a un effet convertissant direct. Mais c'est bon, je suis content. Mais ça couvre les points que je voulais faire aujourd'hui. Ça me donne des trucs à penser aussi plus tard, le fait que, on dirait, la vision commune du terme moral est probablement très différente en fonction des émotions morales que les gens ont. J'avais pas pensé aux implications de ça avant, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Je vais continuer d'y réfléchir, mais merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jonathan, puis on se reverra dans quelques semaines pour la prochaine.
Salut!
Bye bye!